Et alors, on reste dans le secteur global des sciences de la vie, hein, puisque nous sommes au Muséum national d'histoire naturelle. Et donc, là aussi, une expérience conduite dans ce muséum. Vous avez la parole.
Alors, donc je vais vous présenter les activités de mon unité qui, à proprement parler, ne fait pas de mise à disposition directe de données, mais qui y contribue fortement. Donc, mon unité s'appelle l'UMS BABIES, donc BABIES pour base de données, biodiversité, écologie, environnement et société. C'est une unité mixte de services, mixte puisqu'elle dépend à la fois du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Institut de l'écologie et de l'environnement du CNRS. Donc, cette unité est actuellement dirigée par Cécile Calou, qui est maître de conférence au Muséum d'histoire naturelle. Et nous sommes 8 personnels, donc 4 statutaires, uniquement des ingénieurs, essentiellement informaticiens, développeurs. Donc, cette unité est toute récente. Elle a été créée fin 2011. Elle répondait à un besoin qui s'était très vite manifesté parce qu'il y a une très forte augmentation du nombre de jeux de données qui sont développés dans le cadre de différents programmes de recherche avec des formats très, très hétérogènes puisqu'on rencontrait à la fois des données stockées dans des formats Word, Excel, ça pouvait aller jusqu'à des systèmes de gestion de bases de données très complexes. Tout ça dans des formats très variés, avec des personnels aux compétences très différentes. Et donc tout cela engendrait une très forte inquiétude d'un grand nombre de chercheurs de l'INE qui devaient faire face aux défis qui étaient de plus en plus importants et à la pression pour mettre à disposition toutes ces données et les rendre interopérables. Donc, l'unité a été créée conjointement par le CNRS, INE et par le muséum. Alors, pourquoi le muséum ? D'une part, par son expertise dans la gestion des données sur le long terme, puisque c'est un établissement qui existe depuis le début du XVIIIe siècle et qui a l'habitude de gérer depuis très longtemps ses collections et qui, notamment, dispose de plusieurs services informatiques avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration. Donc, nos domaines de compétences, c'est la structuration et, autant que possible, la mutualisation et la pérennisation de ces jeux de données dans des formats de type base de données. Mais également, on intervient sous forme de conseils et toujours sur sollicitation des chercheurs et des unités de recherche. L'idée, c'est qu'on ne va pas chercher les chercheurs, c'est eux qui viennent nous voir et lorsqu'ils en ont besoin, nous sollicitent. Alors, nous essayons autant que possible de prescrire certaines recommandations, d'une part dans la constitution des corpus et le traitement des données, les outils à utiliser, c'est-à-dire qu'on essaye autant que possible de proposer aux chercheurs et aux équipes de recherche d'utiliser des référentiels qui existent déjà. Je vous ai mis ici un petit exemple. On rencontre très souvent des unités qui utilisent des référentiels taxonomiques personnels. On essaye autant que possible de les pousser à utiliser le référentiel national qui est TaxRef. On pousse également les unités à se poser les questions de la propriété intellectuelle dès le départ de la mise en place d'un projet. Donc ça c'est soit répondre à leurs questions ponctuellement, mais bon, on n'est pas juriste, donc on essaye autant que possible de les rediriger vers les services compétents. On essaye autant que possible de pousser les équipes à se poser la question de l'administration à long terme de leur base de données, c'est-à-dire que pendant notre intervention, nous essayons de former quelqu'un qui est sensible à la question de l'administration sur le long terme de ces données. On essaye autant que possible de le former à quelques techniques informatiques de manière à ce qu'il puisse administrer la base. Alors, je vais vous présenter maintenant nos principales activités. Une des premières, et probablement celle qui a fédéré le plus la communauté, ça a été de faire l'inventaire des bases, mais également des jeux de données qui ne sont pas mis en base. L'idée était d'inventorier tout ce qui existait au sein de l'Institut de l'écologie et de l'environnement, de manière à identifier clairement les jeux de données ou les bases qui devenaient dangereusement abandonnées, enfin inactives, et qui risquaient la perte de leur contenu. Donc, on a proposé des petites fiches descriptives. L'idée ici, ce portail, qui est donc toujours en ligne, l'idée, c'est juste de décrire son jeu de données. Il n'y a pas de données derrière qui soient directement mises à disposition. On a une série de champs, plus ou moins obligatoires, qui permettent de décrire le contenu de la donnée et surtout de donner le contact, le nom de la personne que vous pouvez contacter en cas de besoin pour avoir plus d'informations et pourquoi rendre interopérable ou faciliter l'administration de cette donnée. Pour vous donner un exemple, les équipes de recherche ont donc joué le jeu, ont décrit leur jeu de données et on a rencontré des équipes qui ne savaient pas qu'elles travaillaient sur les mêmes thématiques et qui ont donc choisi de se mettre en commun un travail d'administration de données, de mise en place de bases de données, tout simplement. Donc pour vous donner un exemple, chaque fiche descriptive de jeu de données, en gros, on a un nom, le nom d'une personne contact, les établissements référents. On a une série de mots-clés qui a été plus ou moins proposée par les chercheurs et qu'on a un peu modéré pour décrire le contenu, les disciplines concernées, un petit résumé. Et puis, on a essayé d'aller un peu plus loin. Ce n'est pas des champs obligatoires, donc décrire les logiciels utilisés, c'est-à-dire si c'est du Word, du Excel, c'est très basique, de l'Access, ou bien si on a affaire à des systèmes de gestion de bases de données plus complexes, MySQL, Postgres, et quel développement a été fait pour les interfaces. Donc, à l'heure actuelle, nous avons 166 bases décrites. Alors, le format de ce portail est un peu vieux maintenant, on est en train de le revoir, pour proposer des fonctionnalités supplémentaires, et notamment la spatialisation de ces données, et éventuellement la possibilité de déposer des jeux de données. Donc, sachant qu'actuellement, lorsque certaines de ces données sont accessibles en ligne, on propose un lien direct vers ce jeu de données. Mais nous ne stockons pour l'instant aucune donnée. Alors, une autre activité que je vous présente rapidement parce que je suis fortement impliquée, donc c'est l'animation d'un réseau base de données. Donc, je suis l'animatrice. Donc, c'est un réseau qui ne concerne pas que les informaticiens, mais où ils sont majoritaires, qui propose des formations. Et notamment, je vous en parle aujourd'hui, puisque la semaine prochaine, nous organisons une formation autour du plan de gestion de données et son application d'un point de vue informatique. Et donc, c'est un réseau qui regroupe des personnels aussi bien du CNRS que d'autres établissements. L'idée étant de se regrouper, de discuter pour résoudre éventuellement des problèmes, donc tout ce qui concerne la gestion de la donnée et éventuellement sa mise à disposition, puisque tout le monde en parle actuellement, donc c'est au cœur des questionnements. Alors, au sein de l'unité, nous accueillons pas mal de contractuels, puisque dans le cadre de programmes sur le long terme, de grands programmes de recherche, nous essayons d'arriver en amont dans la discussion et dans la mise en place du programme, de manière à prévoir un recrutement d'une personne ou plusieurs personnes pour la mise en place d'une base de données. Donc, c'est dans ce cadre que nous sommes intervenus plusieurs fois et nous avons pu donc recruter des personnels sur des programmes très particuliers. Donc, ce sont des agents contractuels qui sont chez nous pour 1, 2, 3 ans et qui sont là vraiment pour répondre à un besoin dans le cadre d'un programme. Donc ici, vous avez un exemple. C'est un des outils de l'INE, donc ce sont les zones ateliers. Et une personne a donc été recrutée pendant 1 an et demi. Donc là, le programme est terminé. Et l'objectif, c'était de mettre en place un portail, un catalogue de métadonnées de tous les jeux de données donc pour les zones ateliers. Donc les zones ateliers, ce sont des groupements de chercheurs autour d'une problématique, autour d'un lieu, sur le long terme. Et donc, ça peut regrouper des chercheurs de disciplines très différentes. Donc, la personne a été là pour mettre en place ce portail, mettre en place des formulaires de description, donc des formulaires de métadonnées, inciter les chercheurs, les aider à décrire leur jeu de données et proposer un catalogue avec un GeoCMS à côté pour décrire pour spatialement leurs données. Donc, le portail est désormais en ligne. Les chercheurs ont joué le jeu. Donc, les métadonnées sont disponibles et on espère que très bientôt, de plus en plus mettront à disposition leurs données dans le géocatalogue. Un autre exemple, donc sur le réseau des observatoires homme-milieu. Donc, ce sont encore des unités de l'Institut de l'écologie et de l'environnement. Donc, c'est un peu le même principe que les zones ateliers, mais sur des plus courtes périodes et des zones géographiques bien plus précises et autour d'un événement qui a été marquant sur ce lieu. Par exemple, la fermeture d'une mine, son impact sur le milieu, sur les hommes. C'est très orienté sciences humaines et sociales également. Donc là, le principe étant un petit peu le même, c'est-à-dire mettre en place un portail à la fois de soumission de projets, mais également pour décrire ces métadonnées et par la suite proposer un géocatalogue également. Donc c'est pareil, nous avons un contractuel qui est chez nous pour 2 ans et qui travaille sur ce projet. Donc vous avez ici une capture d'écran du portail tel qu'il est actuellement. Enfin, un autre gros projet sur lequel nous avons eu plusieurs contractuels et notamment nous en avons toujours un qui travaille dessus. Donc Christine en parlait tout à l'heure, c'est le programme ANAE qui regroupe des équipes du CNRS et de l'INRA. Donc il s'agit d'infrastructures d'analyse et d'expérimentation sur les écosystèmes. Et donc nos ingénieurs ont mis en place un portail de soumission de projets. C'est-à-dire que ces dispositifs sont là pour permettre aux chercheurs de mettre en place des expérimentations, enfin aux chercheurs du domaine privé ou public d'ailleurs. Et donc, ils doivent soumettre un projet où ils expliquent en gros quels sont les dispositifs qu'ils veulent mettre en place. C'est à la carte, en fait. Donc, ce portail permet de soumettre les besoins, de gérer les réservations d'outils, de mettre en place son protocole, de soumettre cette proposition et lorsqu'elle est validée, de gérer ses échantillons, d'enregistrer et d'exploiter ses données. Donc tout cela pour permettre d'une part, de manière transparente, à la personne qui soumet un projet de décrire ses métadonnées qui seront ensuite récupérées et éventuellement mises à disposition. Donc nous intervenons aussi, et donc c'est le cœur de notre activité, pour tout simplement mettre en place des bases de données ou répondre à des conseils. Donc là, je vous ai fait une petite liste non exhaustive de toutes nos activités. Donc je vais vous en présenter quelques-uns. Donc nous intervenons sur des sujets très, très variés, comme vous pouvez le voir. Donc ça peut être des créations toutes nouvelles de bases de données. C'est le cas d'une base qu'on appelle Grand Singe, que je vais vous montrer juste après. Nous pouvons aussi intervenir, même s'il y a un passif de base de données, c'est-à-dire que c'est la majorité des cas, en fait, il y a des bases access, parfois plusieurs fichiers Excel et des bases access. On a un petit peu tout ce qui est possible et imaginable. Et donc, on arrive souvent à un moment où ça bloque, où plus rien ne fonctionne. Et donc, on est là pour aider à restructurer, à retravailler avec les chercheurs et à recréer une nouvelle base de données pour répondre à leurs besoins. Nous sommes là aussi pour des conseils, donc je vous ai mis quelques exemples. Donc là, les conseils peuvent être très, très variés. Souvent, c'est quand il y a déjà un ingénieur base de données sur place, mais comme il est tout seul, il a parfois besoin de confronter ses solutions à une équipe. Donc c'est en cela que nous intervenons. Alors, l'exemple de cette base Grand Singe, donc c'est une unité mixte CNRS INE Muséum. Donc cette équipe travaille dans le suivi des grands singes, à la fois dans des problématiques d'éco-anthropologie, d'ethnobiologie. Donc ça regroupe un petit peu tous les champs thématiques de l'INE finalement, puisque ça va de la biologie moléculaire à la primatologie, les recensements de végétation, la parasitologie, l'ethnologie. Il y a à peu près tout. On a aussi à peu près tout au niveau des types de données, c'est-à-dire qu'on a du texte, de la photo, de la vidéo, du son, du GPS, énormément de formats différents. Et donc, cette unité ne travaillait jusqu'à présent que de manière individuelle. Chaque chercheur avait sa problématique et son fichier propre. Et donc, l'idée, c'est donc s'ils nous ont sollicité, ils souhaitaient mettre en place une base commune. Donc, nous sommes intervenus, donc 2 personnes de l'unité. On leur a proposé des dictionnaires de données préexistants, ils les ont alimentés, ils les ont fait évoluer. Ils ont réfléchi sur une méthodologie commune, un protocole commun. Donc, quand on intervient, finalement, on intervient aussi dans leur protocole, finalement, on les oblige à réfléchir sur leur façon de travailler. Et tout cela donc, va aboutir prochainement à la mise en place, donc avec la collaboration de la DSI du muséum, à la mise en place d'une vraie base de données avec une interface web. Et donc, par la suite, probablement une mise à disposition grand public, puisque ce sera facilité. On se retrouve très souvent face à des chercheurs qui ne refusent pas de mettre à disposition leurs données, mais qui n'ont juste pas les moyens techniques de le faire, ou qui souhaiteraient le faire, mais qui ont besoin de faire un tri de leurs données. et qui ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'en ont pas les outils et pas le temps surtout. Donc on essaye autant que possible de faciliter la vie des chercheurs pour qu'ils puissent par la suite mettre à disposition leurs données. Un autre exemple classique, une base toujours Muséum CNRS, d'une équipe qui travaille sur le suivi des vautours, assez classique pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec les suivis d'oiseaux. Donc, il s'agit d'un suivi de vautours en France ou en Europe. On a ici affaire à la fois des chercheurs et des volontaires répartis sur le territoire national. Donc, c'est de la présence d'oiseaux, du suivi d'oiseaux. Et donc, en fait, cette base de données avait été développée en sous-access, puis passée sous Oracle par un contractuel qui, entre-temps, est parti, a trouvé un autre emploi. Les chercheurs se sont retrouvés bien embêtés puisqu'ils avaient un outil qui n'était pas terminé, qui n'était pas opérationnel. Donc, on a repris le travail en cours et le travail de développement de l'interface est quasi fini et devrait permettre donc, un meilleur travail à la fois pour les bénévoles et pour les chercheurs. Enfin, un autre projet, le premier sur lequel l'équipe a travaillé quand on a été créé. Donc, je vais vous en montrer deux facettes. C'est une équipe donc, qui travaille sur le suivi des mammifères marins. Il y avait énormément de bases de données sous Access, des jeux de données sous Excel. Et notamment, une partie de ces jeux de données concernait le suivi des échouages des mammifères marins sur les côtes françaises. Donc pareil, des bénévoles et des chercheurs à la fois. Cette base était sous... Enfin, il y avait une grosse base sous Access et quelques fichiers Excel. Cette base n'était plus opérationnelle puisqu'il y avait eu énormément d'intervenants dessus qui avaient tous fait des modifications. Nous avons donc repris cette base, refait le modèle, travaillé énormément sur le contenu, sur la restructuration des données. Maintenant, la base est opérationnelle. Elle est d'ailleurs présentée le week-end prochain aux observateurs régionaux. Tout ce travail a permis, en plus, donc dans la mise à disposition des données, on est en plein dedans. Cette base a permis de faciliter les échanges avec l'Inventaire national du patrimoine naturel, qui, je ne sais pas si vous connaissez cette l'INPN, donc c'est un établissement qui permet la mise à disposition des données de présence et d'absence d'espèces sur le territoire français. Et donc, grâce à la mise en place de cette base, le versement de ces données vers le portail de l'INPN, donc il les met à disposition sur Internet. Donc, toutes ces données peuvent maintenant être versées sur leur portail. Mais également sur le site du GBIF. Donc, pareil, le GBIF, c'est la mise à disposition des données d'inventaire de biodiversité, mais pour le monde entier. Donc, c'est aussi versé au GBIF, à l'Agence des aires marines. Enfin, toutes ces informations sont désormais versées régulièrement à tous les portails qui mettent à disposition ces données. Enfin, une autre partie de leur travail consistait au suivi d'animaux marins, à la fois la télémétrie. Donc, c'est quand on met, vous avez tous déjà dû voir ça, c'est les balises qu'on met sur la tête des éléphants de mer pour les suivre. Donc, ils avaient énormément de données de ce type. Ils avaient également des données d'observation d'animaux à la fois par avion et par bateau. Donc, des données d'occurrence d'espèces. Donc, tout cela correspondait à peu près à une base par campagne et par type de données. Donc, on a essayé de tout rassembler, de créer une base commune, toujours dans le même objectif que ce que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire la mise à disposition ensuite d'une partie des données que le chercheur aura choisie sur des portails de mise à disposition de données d'inventaire d'espèces. Donc actuellement, c'est quasiment terminé. On essaye autant que possible de suivre les campagnes de suivi d'animaux et de leur versement dans cette base. Un autre exemple très très récent, donc c'est deux personnes de notre unité qui travaillent sur la mise en place d'une base de données qui, dans le cadre d'un programme ANR Jeunes Chercheurs, qui regroupe plein de spécialistes autour d'une même question sur la domestication des animaux. Donc l'idée, c'est de capturer des sangliers, de les contraindre dans un milieu et de voir quels sont les effets de cette domestication sur cet animal, donc à la fois physiologiquement, morphologiquement, génétiquement. En gros, on rassemble toutes les disciplines possibles pour voir quels sont les effets de la domestication sur le sanglier. Donc, nos ingénieurs sont intervenus pour gérer toutes ces données de formats très différents. Donc le gros du travail qui est actuellement en cours, donc c'est la sauvegarde et l'enregistrement sur serveur et la possibilité aussi de consulter c'est l'imagerie 3D qui est générée par ce genre de données. Et enfin, par la suite, mettre à disposition dans un premier temps des chercheurs ces données pour qu'ils puissent interagir et rendre interopérables leurs données. Alors, une autre partie de nos activités, donc comme je vous disais, c'était la veille. Donc nous essayons autant que possible de suivre ce qui se fait ailleurs. Donc je vous en ai mis une petite liste là. L'idée, c'est donc pouvoir proposer aux chercheurs des solutions qui existent déjà, des dictionnaires de données, des vocabulaires contrôlés, voire des ontologies, même si on n'en rencontre pas encore énormément. Et de pouvoir du coup rendre disponibles par la suite ces données sur des grands portails tels que le GBIF ou l'INPN, comme je vous le montrais tout à l'heure. Donc tout ça, notre objectif est essentiellement de répondre aux besoins des chercheurs, mais toujours avec, dans l'esprit, de mettre à disposition ces données par la suite. Pas nous directement, forcément, mais au travers d'autres outils qui existent déjà. Voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup pour cette présentation très, très intéressante. Qui souhaite poser une question? Oui.
Jacques Lafay, UPMC. Je découvre avec émerveillement le travail que vous faites, que je ne connaissais absolument pas. Donc, merci Couperin. Mais donc, je suis un peu novice sur ces questions de data, mais c'est bon, tout le monde a conscience que c'est quelque chose d'essentiel maintenant. Et c'est en tant qu'UPMC que je vais vous interroger un petit peu. Le MNHN, le muséum appartient à la commu, donc Sorbonne Université. Je dois dire d'abord que une de mes convictions par rapport aux data, c'est que ça doit partir de la base et que c'est à partir des communautés et des disciplines que ça avancera. Bien sûr, il faudra sans doute légiférer sur les droits, sur tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est dans le type d'action que vous faites que les choses vont avec ce type d'action que les choses vont avancer. Donc, en quoi pouvez-vous avoir un rôle moteur au sein de la commu Sorbonne Université? Est-ce que vous avez déjà des contacts, sachant qu'on est très balbutiant dans ce domaine-là, me semble-t-il, d'après ce que je connais au niveau de la commu. On n'en est même pas au stade des grandes incantations comme certaines autres universités.
Alors, on n'est pas impliqué directement dans la commu, mais de manière indirecte, puisqu'on travaille avec les unités qui parfois en dépendent. Mais comme je le disais au début, en fait, on est CNRS INÉ et Muséum, donc on travaille à la fois pour les deux, donc on n'est pas directement impliqué dedans. On l'est indirectement par les unités de recherche qui en dépendent.
D'accord. Et au niveau des outils que vous utilisez, Renaud Fab nous a annoncé hier, bien sûr, des grands développements, je dirais, techniques, d'outils au niveau du CNRS. En quoi est-ce que vous êtes branché là-dessus? Est-ce qu'il va y avoir une espèce de... est-ce qu'on peut imaginer des outils communs? Ça va un peu contre ce que je disais sur l'aspect disciplinaire, mais enfin, des outils communs quand même un peu à toutes les disciplines ou pas?
Alors, pour les outils communs... Alors, nous, au niveau logiciel, tout simplement, on essaye de préconiser l'open source, hein. Un maximum. On s'adapte en fait plus aux problématiques de recherche des unités, c'est-à-dire que même si on a des modèles de données assez récurrents qui peuvent apparaître sur un petit bout des modèles qu'on met en place pour les bases de données, on a quand même des problématiques qui sont très spécifiques aux équipes, donc on essaye de s'y rapprocher au mieux. Et en même temps, on a toujours en tête l'idée derrière de mettre à disposition et de rendre interopérables ces bases de données. Donc on essaye de se mettre au courant de tout ce qui se fait ailleurs pour faciliter par la suite l'interopérabilité de ces bases qui sont vraiment métiers et chercheurs vers des choses qui seraient plus de la concentration de données à un niveau supérieur, en fait. Donc on essaye autant que possible de pouvoir être interopérable avec ces grandes bases qui regroupent les données, mais on reste quand même très proche du métier du chercheur et donc très spécifique à leurs problématiques.
Merci beaucoup.
Voilà Un très bon sujet pour ajouter de la consistance à une commu. Oui.
Merci, c'était très intéressant. Une petite question, enfin deux questions. D'abord, est-ce que vos équipes, donc c'est, vous êtes tous, alors question très pratique, hein, mais filière ITRF, ingénieur de recherche, c'est ça, ingénieur d'études, tout ça.
Alors,
dans filière bibliothèque.
Dans l'unité, donc on est quatre ingénieurs statutaires, ingénieur de recherche, ingénieur d'études, et on a une assistante ingénieure aussi. Et les contractuels sont recrutés en tant qu'ingénieurs d'études, d'accord, principalement.
Et le réseau que vous avez présenté, vous avez parlé donc d'ouverture aux autres établissements. Mmh. Ouverture à nous aussi.
Ouverture à, pardon ?
À nous également,
bibliothécaires. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que dans le réseau, on a une majorité d'informaticiens, mais on a aussi des ingénieurs IST, on a aussi des chercheurs. On essaye d'être un maximum ouvert. C'est l'objectif. Ouais.
Merci. Je voulais d'abord faire une observation. Je trouve que le mode en fait, d'organisation est intéressant parce qu'on voit souvent en France des bases de données dans des laboratoires qui sont vraiment très, très proches du chercheur et qui, quand le chercheur s'en va, finalement meurent, disparaissent. Donc je trouve qu'on aurait intérêt à réfléchir à ce type de modèle pour en tout cas un certain nombre d'activités où finalement une équipe accompagne la recherche, mais la recherche au sens large, plusieurs équipes, plusieurs labos. Et du coup, on a en tout cas le sentiment, à t'entendre, hein, qu'on a plus de chances de voir durer finalement ces données à travers une plateforme, enfin, en tout cas, un groupe d'individus qui ne sont pas directement localisés dans le laboratoire, mais au service d'une communauté plutôt qu'au service d'un chercheur, quoi. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une observation. Et après, j'avais une autre question relativement aux citoyens. Est-ce qu'il y a des chercheurs qui, finalement, demandent aussi l'ouverture de ces données, parce qu'elles sont quand même intéressantes aussi, en tout cas parmi celles que tu as mentionnées, pour le citoyen. Et est-ce que les chercheurs, finalement, sont un peu demandeurs de cette ouverture et de la contribution du citoyen à l'alimentation de leur base de données?
Alors, ce n'est pas arrivé réellement ces termes, mais disons que les chercheurs, en tout cas, avec qui on a travaillé majoritairement, ont déjà cette habitude-là parce qu'ils sont extrêmement sollicités par le ministère de l'Environnement. Donc, ils ont déjà une habitude de demande régulière. Donc, ils ont l'habitude. Ils savent qu'ils doivent rendre quelque chose au ministère, à l'INPN. Alors, certains ont l'habitude de mettre à disposition ces données. Je ne sais pas si derrière il y a une volonté de partage grand public ou pas, mais en tout cas, il y a une habitude qui existe déjà. Ah oui, c'est-à-dire de la science participative, en quelque sorte. Voilà. Oui, il y en a. Bah, en fait, c'est l'exemple que je montrais pour l'observation des mammifères marins, les échouages. Ça fonctionne avec un réseau d'observateurs nationaux qui sont formés et qui se baladent sur les côtes pour observer et qui sont sollicités lorsqu'un mammifère s'échoue sur les côtes. En sciences participatives, qu'est-ce qu'on avait d'autre en projet? Les vautours aussi, où les gens peuvent signaler la présence d'un animal identifié à partir de sa bague. C'est une question qui vient de plus en plus, mais on ne gère pas directement les données issues de la science participative. Au muséum, il y a un service qui s'occupe de ça, qui est très performant, ils sont assez connus pour ça. Nous, on est vraiment plus dans la question recherche, chercheur, équipe de recherche. Maintenant, de temps en temps, il y a des sources de ce type, comme j'ai évoqué, pour les vautours ou pour les mammifères marins.
Bien, je propose que nous nous arrêtions là, mais on rejoint avec votre question un des objectifs d'Open Science, puisque l'on avait dit quand même la science ouverte, bien sûr, mais ouverte en particulier sur les citoyens, et pas simplement en les informant, mais également en demandant leur contribution et leur participation. Donc je crois que c'est la boucle, se boucle un petit peu. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante.